Bonjour, chers auditeurs. Sur les ondes de Radio Grand Ciel, nous avons le grand plaisir de saluer aujourd'hui la présence dans notre studio d'Éric Montigny, qui est calligraphe et enlumineur professionnel et qui va nous faire découvrir aujourd'hui la calligraphie latine. Éric Montigny va peut-être parler un peu de ses cours qu'il donne à l'École internationale du vitrail et du patrimoine à Chartres, organisée par le Centre international du vitrail. Car ces cours permettent à toute personne intéressée par ce sujet de faire connaissance et de s'initier à cet art. Donc bonjour Éric Montigny, nous allons vous écouter avec un grand bonheur.
Merci.
Et car nous savons que vous êtes très versé dans tout ce qui a trait à l'écriture en général.
Oui.
Donc on est tout à votre écoute. Je sais que vous êtes chrysographe. Pour nos éditeurs et peut-être aussi pour moi-même, nous expliquer plus en détail ce que c'est qu'un chrysographe.
Oui, bonjour. Eh bien oui, effectivement. Donc déjà, il y a plusieurs termes au niveau de mon activité. Calligraphe, donc calligraphie, basée sur kalos, la beauté, et graphein, l'écriture, donc la belle écriture. C'est vraiment ce qu'est la calligraphie, l'art de la belle écriture. Chrysographe, là aussi, ça vient du grec, chryso, or, et bien l'écriture à l'or. Donc il y a deux grandes techniques principalement, soit l'écriture à la feuille d'or, soit l'écriture à l'or réduit en poudre. D'ailleurs, on utilise toujours un des termes particuliers qui remonte au Moyen-Âge. On pouvait réduire l'or en poudre avec des techniques très particulières, et l'or réduit en poudre était mélangé avec de la gomme d'acacia, par exemple. Le mélange était versé dans une coquille de moule, et donc tous les gens qui continuent même aujourd'hui, à utiliser l'or en poudre, on dit l'or à la coquille. Le terme est resté. Quant à enlumineur et enluminure, alors c'est basé là sur un autre terme, basé sur enluminare, mettre en lumière. Donc on retrouve le radical de lumière dans enluminure, puisque au départ, c'était la technique de la pose de feuilles d'or dans un manuscrit. Lorsqu'on ouvrait un livre, la lumière tombait dessus, l'or réfléchissait la lumière, et on avait l'impression que la lumière sortait du livre. Donc, dans un premier temps, la lumière physique. Par la suite, l'enluminure, ce sera la sagesse du livre. Et donc, nous allons avoir toute une codification par rapport à l'or, par rapport aux dessins que nous allons réaliser, les motifs, les miniatures, et ainsi de suite. Alors, au niveau de l'or, il faut savoir qu'on n'a pas utilisé de l'or dans les manuscrits parce que c'était la chose la plus chère. Non, il y avait beaucoup plus cher que l'or. Ça a été un pigment particulier qu'on appelait le lapis lazuli, donc le bleu outre-mer, parce qu'il venait réellement d'au-delà des mers. Il coûtait plus cher que l'or. Alors pourquoi a-t-on utilisé autant d'or dans les manuscrits, comme dans les icônes ? Bien, tout simplement parce que l'or est un métal qui est stable, et donc c'était un des symboles de la vie éternelle. Donc voilà. Par la suite, ça va être largement utilisé jusqu'à, je dirais, fin de la Renaissance, et l'enluminure cessera.
On sait qu'on n'hésitait pas au Moyen-Âge de mettre de l'or carrément sur les statues et pour orner les portails. On ne le mettait pas dans un coffre-fort dans la banque, on s'en servait.
On s'en servait beaucoup et même ça faisait partie de la monnaie, hein. On échangeait des pièces d'or aussi. Alors l'or a été utilisé largement par l'Église, puisque l'Église sera un grand mécène par rapport aux arts. Et nous avons des méthodes très anciennes qui remontent au Moyen-Âge, qui seront interdites par la suite, pas avant les années 60 tout de même. Une méthode magnifique pour réaliser, par exemple, des objets plaqués or, des ciboires, et ainsi de suite. Et bien, cette méthode est fort simple. Il fallait faire un amalgame d'or avec du mercure, donc quicksilver, l'argent vif. Cet amalgame, puisque l'or arrive à se mélanger très facilement avec le mercure, eh bien, il suffisait d'en revêtir l'objet. On le mettait, et puis pour se débarrasser du mercure, c'était bien simple, eh bien, il suffisait de chauffer l'objet. On le faisait chauffer, des vapeurs de mercure s'échappaient, extrêmement toxiques, dangereux, et il restait que l'or sur la pièce qu'on voulait dorer, avec une brillance incroyable. Ça, c'est une méthode d'autrefois qui marchait fort bien.
Et les gens posent souvent la question de la mortalité justement des gens qui travaillaient et le mercure et le plomb par exemple. Est-ce qu'on a des traces effectivement des maladies qui se développaient ou des mises en garde?
Oui, alors on savait très bien que ces ingrédients étaient dangereux. On a quelques consignés sur des manuscrits aussi disant que telle personne, tel ouvrier, n'avait pas pris garde, donc on savait que c'était déjà dangereux, avait fait un malaise parce qu'il avait inhalé beaucoup trop de poussière, de blanc de plomb par exemple, lors de la réalisation. Ça, on était parfaitement au courant. N'oublions pas non plus que très souvent, au niveau de tout ce qui était pigmentation, il y avait trois grandes sources. Nous avions les pigments minéraux, donc de l'origine minérale, l'origine végétale, les plantes, et puis animales, comme le murex, le coquillage, la cochenille. La plupart des pigments minéraux étaient des poisons. Dans les couleurs utilisées autrefois, nous avions, par exemple, leur piment et le réalgar, qui étaient soit un jaune, soit un orangé. C'était des bisulfures et trisulfures d'arsenic tout de même. Blanc-plomb, bon, bah, c'est la céruse, c'est du plomb. Le vert émeraude, jusque dans les années 60-70, c'était un poisson de première catégorie en France. Donc, il devait être gardé sous clé lorsque le magasin pouvait encore en vendre.
Est-ce que, oui, Michel Pastoureau, le grand spécialiste en France et à l'échelle internationale des couleurs, établit, sans en être sûr, un lien entre la valeur parfois négative que va prendre le jaune et oui. le vert et les deux ensemble.
Oui.
Et il se pose la question, est-ce dû justement aux pigments qui étaient connus pour leur toxicité ?
Alors, je pense qu'il y a une symbolique. Le jaune était une couleur qui était très prisée dans l'Antiquité et au fur et à mesure que les siècles ont passé, chez nous, le jaune, eh bien, va être déprécié. Jusqu'à nos jours, ne dit-on pas être un jaune, jaune cocu, c'est quand même pas très flatteur. Au Moyen-Âge, je pense déjà qu'il y avait deux jaunes et il me semble que Michel Pastoureau en parle. Il y a le jaune, la couleur, qui est le mauvais jaune et le bon jaune qui va être l'or.
Et foi sur Radio Grand Ciel.
Donc nous sommes peut-être un peu éloignés de oui. la calligraphie tout en découvrant un pan de votre immense savoir. Revenons donc à la calligraphie latine et au support.
Oui.
Il y a le papyrus, on ne sait pas trop, mais vous voulez bien nous le rappeler que le papyrus est encore utilisé en Occident chrétien pendant longtemps.
Pendant très longtemps, puisque l'Église l'utilisera pour tout ce qui était très officiel jusqu'au 8e siècle à peu près, et que le dernier papyrus, qui a été trouvé et conservé remonte au 11e siècle. Alors c'est vrai que le parchemin, donc le support de peau animale, est un support d'écriture. On sait le préparer, et fort bien le préparer, et on l'utilise largement. Il y a un autre support qui va venir au 13e siècle à peu près, on commence à le connaître au 12e, c'est le papier. Alors, le papier est une invention chinoise qui remonte loin dans le temps, puisqu'on est au 2e siècle avant notre ère. Les Arabes auront le papier lorsqu'ils vont capturer des artisans chinois connaissant le secret de fabrication au 7e siècle. Et nous, en Occident, eh bien, les Arabes vendent déjà du papier. Et par la suite, lorsqu'on va récupérer des territoires comme l'Espagne, nous allons avoir eh bien, le secret du papier. Et dès qu'en Occident, nous avons ce savoir, le papier va très fortement et rapidement évoluer.
Parce qu'il est plus facilement à mettre en œuvre que le parchemin, qui est très long et très cher à produire.
Oui, le papier n'est pas très cher. Il nous faut des moulins papier. Donc les premiers moulins sont fort simples. Nous avons des cuves. Dans les cuves, eh bien, il y a des marteaux, des pilons. Et les pilons sont entraînés par un arbre à cam qui lui-même est directement relié à la roue à eau d'un moulin. Donc ce sont les moulins papier. Et l'ingrédient principal, à part l'eau, ça va être les chiffons. Donc nous avons des métiers qu'on va appeler des chiffonniers qui récoltent les étoffes usagées, les guenilles, et on va en faire du papier. Alors n'oublions pas que dans ces époques-là, début donc du papier en Occident, nous avons des papiers chiffons, effectivement, mais en lin. Alors que de nos jours, quand on parle de papier chiffon, ils sont forcément en coton. Mais le coton, on ne connaissait pas la plante.
À cette époque-là, non.
Non. Oui. Donc le papier se répand assez rapidement à partir du XIIIe siècle. Comme toute nouveauté, les gens sont très réticents et n'en veulent pas trop. Ils n'ont pas de confiance dans le papier. D'où nous avions eh bien, ce genre de dicton autrefois qui disait « Écrire des livres sur papier, c'était perdre son temps et son argent ». Alors le papier, néanmoins, comme il a un coût bien moindre que parchemin, va commencer petit à petit à se répandre. On pense toujours à une grande invention d'un certain Gutenberg, donc l'imprimerie à caractère mobile. lorsqu'il va faire son deuxième livre, puisque le premier livre a été un livre de grammaire, son deuxième livre sera la Bible. La Bible qu'il va imprimer, eh bien, il y a un tiers sur parchemin tout de même et deux tiers sur papier.
Donc là aussi, il y a une résistance d'abord de se confier ses pensées et tout ce qu'on croit être important à du papier. On gardera sans doute pour tous les documents officiels le parchemin dans un premier temps, qui est plus valorisant et valorisé, toujours.
Oui, et puis beaucoup plus résistant, donc on garde le parchemin encore très longtemps. Mais c'est vrai là aussi qu'avec l'invention donc, de l'imprimerie à caractère mobile, plus ça va aller, plus on va imprimer sur papier.
Évidemment, avec le support, changera aussi l'encre et... Oui. Le liquide qui sera utilisé pour le papier.
Absolument, puisque pour le parchemin, on a utilisé principalement des encres qu'on appelle gallométalliques, donc réalisées avec la gale du chêne et puis après un sulfate ferreux. Sinon, avec l'imprimerie, nous n'avons pas réellement le même type d'encre, puisqu'il faut ancrer les caractères et on va avoir plutôt des encres grasses. Et au niveau de tout ce qui était gras, il était extrêmement difficile d'utiliser ce type d'encre pour le parchemin, puisque l'huile, par exemple, est acide, et avec le parchemin, ça fait mauvais ménage.
Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, Eric Montigny va nous parler maintenant peut-être aussi des encres. Nous avons l'habitude, avec notre époque, d'avoir tout prêt dans nos bureaux. Comment est-ce que ça se passe dans le passé quand on veut écrire ?
Alors, il faut de l'encre, effectivement, même depuis les époques très reculées. Et le premier type d'encre, certainement, ça a été le carbone. Alors, pour récupérer du carbone, c'est simple. Tout le monde faisait du feu, donc nous avons le noir de fumée, c'est un dépôt de carbone. On récupérait cette poussière, on pouvait la préparer encore un peu plus finement, rajouter un peu d'eau, et puis un liant tout à fait naturel, une gomme d'acacia, gomme de prunier, gomme de cerisier, et nous avions donc une encre de type carbone. Par la suite, on va utiliser surtout la gale du chêne pour faire les encres gallométalliques, et ça, eh bien, les gens autrefois, au Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance et au-delà, tout le monde prépare son encre. On ne peut pas acheter de l'encre toute prête. Donc chacun... comme en cuisine, à sa recette.
Et comment est-ce qu'on pouvait faire durer l'écriture dans le temps ? Car j'imagine l'humidité à elle seule suffisait sans doute pour effacer au cours du temps l'écriture.
Au niveau des encres, bon, il fallait prendre garde évidemment à l'humidité. Ça, c'était quand même pas un ami du livre. N'oublions pas que le parchemin, qui a largement été utilisé, n'aime pas l'humidité. Donc ça, il fallait en prendre soin. Au niveau des encres, soit j'avais les encres gallométalliques. Elles ont une très bonne durée de vie dans le temps, car le livre, nous ne l'oublions pas, il est plus souvent lui fermé qu'ouvert. Donc déjà, il est protégé de la lumière. Si on voulait vraiment des encres avec toutes les qualités de durabilité, on avait des encres qu'on appelait mixtes, des encres gallométalliques, plus l'ajout donc, de carbone. Et par la suite, lorsque l'industrie, fin 19e, début 20e, va commencer à s'intéresser aussi aux encres, là, nous allons avoir pléiade, d'encre différentes, de différentes recettes.
Donc on n'utilise pas le sépia tout de suite ?
Ah si, on va utiliser aussi le sépia, ça c'était une des sources. Alors il faut déjà pour le sépia ne pas être trop loin de la mer non plus. Donc la poche de la sèche était retirée à peine l'animal pêché sur le bateau. Alors ça se comprend, parce que si on conservait trop longtemps dans des conditions un peu humides, c'était quand même pas un parfum bien agréable.
Art et foi sur Radio Grand Ciel.
Alors, revenons à notre calligraphie latine.
Oui.
Utilisée à partir de quelle époque, pour nous situer un peu dans le temps?
Alors, donc, les Romains vont absorber les cultures étrusques et grecques, et nos formes de lettres vont quasiment être figées vers le 4e siècle avant notre ère. Donc, nous appelons calligraphie et écriture latine les écritures basées sur l'alphabet romain. Donc, la quasi-totalité de l'Occident sont des pays d'écriture latine, comme toute l'Amérique du Nord, comme toute l'Amérique du Sud, comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, comme à peu près la moitié des pays africains. Ce qui fait que notre système d'écriture est un système très important, puisque plus de la moitié des pays du monde utilisent l'écriture latine. Alors, l'écriture latine va connaître nombre de variantes, puisque selon les époques, nous allons changer. On avait déjà abordé un petit peu l'écriture donc carolingienne, qui est une grande réforme au niveau de l'écriture en Europe, qui par la suite donnera les écritures de type carolingienne tardive.
Donc vous voulez rappeler à nos auditeurs cette réforme que Charlemagne a voulu imposer d'uniformiser l'écriture.
Oui, d'avoir surtout des caractères bien plus lisibles. Car avant l'arrivée de Charlemagne, nous avions déjà certains types d'écriture avec des éléments de cursivité qui rendaient la lecture très difficile. Quand on regarde n'importe quel manuscrit en écriture caroline, même si on n'arrive pas à comprendre le texte, on arrive à identifier chacun des caractères.
Parce que les mots étaient séparés également entre eux ou...
Bon, c'est surtout que les textes étaient en latin, donc je pense que pour la plupart des gens de notre époque, les textes sont peut-être un peu hermétiques. Mais néanmoins, comme je disais, les caractères sont identifiables, ce qui est déjà très très important. Donc l'écriture que Charlemagne voudra, au niveau de sa réforme, il s'y prendra tout de même à trois fois avant que la réforme ne puisse passer. Donc on pense qu'il y a une forme, on va dire, de synthèse qui se fera dans les alentours de Saint-Martin de Tours.
Et à cette époque-là, est-ce qu'on avait déjà les abréviations qui rendent si compliquée la lecture de certains documents dans les siècles qui vont suivre ?
Alors, il y avait déjà des abréviations, mais par la suite, avec les écritures de type gothique, oui, ça ne va pas s'arranger. Nous allons avoir une multiplication des abréviations et contractions, parce que ça permet aussi d'économiser le parchemin et que les écrits, il y en a de plus en plus.
Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être aussi brièvement des scriptoria, les lieux justement où les copistes allaient s'appliquer?
Oui, alors l'église va être une grande source de culture, puisque au niveau de l'histoire, pour aller très très vite, chute de l'Empire romain. À la chute de l'Empire romain, il y avait une jeune religion qui devient une religion d'État, donc la religion catholique. Et les moines ont besoin de quelque chose d'essentiel. Pour diffuser la foi, il faut des livres. Et donc, ils connaissent l'écriture, ils connaissent cette culture, ils vont continuer à propager. Ce qui fait qu'avec les invasions barbares, notre culture va souffrir, et l'Église, par la force des choses, se retrouve détentrice de ce savoir. Ce savoir va être accaparé par la suite, de nouveau, par les laïcs, mais il faut attendre que l'économie redémarre. Donc, ce n'est pas avant Charlemagne que nous allons avoir un nouvel essor. Donc, nous allons avoir nombre d'écritures gothiques, très belle, mais à la fin de la période médiévale, les écritures deviennent des fois très sophistiquées et brouillent un peu la vue, fatiguent réellement la lisibilité. Ce qui fait qu'en Italie, nous allons avoir, donc au XVe siècle, des scribes très importants comme le Florentin Poggio Bracciolini, qui va se baser sur l'écriture carolingienne, la reprendre, l'Italie ne l'avait pas connue. Et à partir de ces caractères, il va former un nouveau type de caractère qu'on va appeler l'humanistique. Et l'humanistique sert de caractère d'imprimerie à l'heure actuelle.
Thank you.
art et foi sur Radio Grand Ciel.
Nous sommes avec Eric Montigny qui nous a parlé de la calligraphie latine. Nous sommes arrivés à la Renaissance.
Oui, donc la Renaissance, eh bien, on change tout quasiment. Nouvelle forme, on redécouvre l'Antiquité, on redécouvre des écritures anciennes. La majuscule romaine est remise au goût du jour. Ça sert notamment à inscrire nombre de titres dans les ouvrages. Et puis, suite à l'écriture donc italienne qu'on appelle humanistique, qui va s'imposer largement, nous allons avoir un autre type d'écriture, toujours développé par un Florentin, un Niccolo Nicolini, qui lui va baser son écriture sur une semi-cursive. Donc on a des éléments de cursivité, mais peu. Et cette écriture a plusieurs particularités. Elle se fait avec une légère pente, 7 à 8 degrés à peu près. C'est une écriture d'une rare élégance qui voit le jour donc dans la chancellerie du Vatican, d'où le nom de chancelière ou de cancelleresque, et elle va être largement adoptée par la plupart des pays européens. Ouais. Donc cette écriture de chancellerie est une écriture très importante. Elle sera elle aussi copiée par les typographes pour en faire une écriture que tout le monde connaît à l'heure actuelle, écriture italique, écriture née en Italie. Donc cette chancelière, qui est une écriture majeure, sera utilisée partout en Europe et elle traversera aussi la Manche pour être utilisée par nos amis anglais. On a des premiers manuels d'écriture qui voient le jour, et les premiers manuels d'écriture voient le jour à la Renaissance et en Italie. Donc on a des maîtres d'écriture, ils ne sont plus scribes, mais maîtres d'écriture. Ils sont à l'origine des nouveaux styles d'écriture et ils vont créer les premiers manuels. Alors, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On consigne nombre de formes différentes d'écriture et des techniques aussi pour préparer son encre, pour tailler sa plume. Le premier manuel d'écriture qui va être publié en Angleterre va être fait par un certain Jean de Beauchesne, un Lyonnais, donc un Français. Et ce premier manuel d'écriture aura une dédicace pour Sa Majesté la Reine Élisabeth Ière. Et on sait qu'Élisabeth Ière a utilisé le livre de ce Français pour utiliser cette écriture qu'on appelle l'écriture de chancellerie, la chancelière. L'écriture de chancellerie est très importante puisqu'elle va dériver au fur et à mesure pour aboutir sur un type d'écriture que nous connaissons fort bien sous le nom d'écriture anglaise. Écriture magistrale, extrêmement élégante. Alors, comme très souvent, ce genre d'écriture, ce genre de mode, va balbutier d'abord en France et aux Pays-Bas avant de traverser la Manche. L'écriture sera largement diffusée, puisqu'à partir d'Élisabeth Ière en Angleterre, eh bien, ça va marquer le début de l'apogée de l'Angleterre au niveau commercial et puissance. Puisque Élisabeth Ière aura un ami du nom de Francis Drake, et elle va, avec l'argent d'un couronne, financer nombre de navires. Donc on le sait, les Anglais deviennent la première puissance économique, et pour faciliter le commerce avec les plus forts, on adopte l'écriture des plus forts. Alors là aussi, il faut mettre un petit bémol. Imaginez qu'au début de la Renaissance, on apprend à lire de plus en plus aux gens, mais pas à écrire. Inutile d'apprendre à écrire aux gens s'ils n'ont pas besoin de l'écriture dans leur carrière. Seuls les gens se destinant à une activité commerciale ou notariale vont trouver une académie ou un maître d'écriture et apprendre les écritures utilisées. Parce qu'on n'apprend pas qu'une écriture. La forme de l'écriture notariale n'est pas l'écriture épistolaire, c'est pas la forme de l'écriture de la cour, et ainsi de suite. Donc on apprend les écritures.
Et aussi la fabrication de l'encre qui va de pair avec l'apprentissage de l'écriture.
Alors on apprend aussi bien la fabrication de l'encre, la préparation de la plume. Et au niveau des volatiles, on va utiliser que les gros volatiles. Alors tout le monde connaît la plume d'oie, tout simplement parce que des oies, il y en avait dans tous les villages, donc c'était facile. Mais on a utilisé aussi la plume de cygne, la plume de paon, la plume de canard, la plume d'aigle, et ainsi de suite.
Et l'encre rouge est également de grande importance pour rubriquer.
Absolument.
Comment est-ce qu'on la fabrique ?
Alors, là, l'encre, on va dire, s'apparente fortement à la peinture. Hein. Soit c'est un pigment rouge qu'on va utiliser, nous avions déjà du vermillon, qui était, par rapport à son nom, une source minérale. Il y avait des gisements en Espagne, entre autres. On pouvait fabriquer aussi l'encre rouge, bien avec des plantes. Alors, l'encre rouge, oui, en latin, elle porte le nom de ruber, la couleur rouge, et donc ça donnera le nom de rubrique, puisqu'il y avait quelques lignes qui étaient tracées en rouge, notamment dans les ouvrages religieux.
Dans les missels, les rubriques comportent les instructions.
Voilà.
Pour le... Les gestes du prêtre et aussi pour les fidèles à la rigueur. rubriqués. Est-ce qu'on prenait aussi les cochenilles qui sont utilisées aujourd'hui comme colorant?
Oui, on a utilisé la cochenille. Donc là aussi, il n'y avait pas de souci pour s'approvisionner en cochenille. Il y en avait quasiment partout en Europe. Avec la découverte du Nouveau Monde, on va laisser tomber un peu nos cochenilles à nous, européennes, et préférer les cochenilles du Mexique, car elles étaient bien plus richement pigmentées.
Donc un échange, aussi, à nouveau, un échange commercial qui va découvrir, faire découvrir des nouveaux supports, de nouvelles encres, de nouveaux matériaux.
C'est ça, de nouveaux matériaux. Donc comme la gale du chêne, on prendra par la suite non plus celle de nos chênes, mais la gale d'Alep, plus richement, a été beaucoup plus riche en tanins en fait.
Nous sommes arrivés très rapidement à la fin de notre émission qui était à nouveau très intéressante. Alors, on a parlé du support, on est passé du parchemin, on est passé du papyrus au parchemin, au papier, très rapidement, de l'encre, de tout support. Est-ce que le copiste avait des conditions idéales de travail? Parce qu'on pense rarement à l'absence de lumière, oui. La lumière des chandelles n'était pas forcément idoine.
Non, alors c'est vrai que là aussi, au niveau des ordres religieux, ça dépendait des ordres. Soit ils avaient cette grande salle qu'on appelait le scriptorium, où ils étaient réunis. N'oublions pas qu'un scriptorium était toujours avec ses ouvertures vers le nord, pour avoir une lumière constante, pas vers le sud. Qu'un scriptorium, très souvent, était démuni de cheminée, parce que le feu était un danger pour le livre était extrêmement cher. Et que dans ce cas-là, on évitait la chandelle aussi, on préférait utiliser la lumière du jour.
Donc voilà. Pas de travail, ou très peu de heures de travail en hiver.
Ouais, on ne prenait pas de risque avec la chandelle non plus. Et selon d'autres ordres, eh bien, le moine pouvait, lui, copier tranquillement dans sa cellule avec personne autour. Ça dépendait des ordres.
Et les fenêtres n'étaient pas forcément très grandes, parce que plus elles étaient grandes, plus elles laissaient entrer le froid.
Aussi, mais on sait que dans la plupart des monastères, donc il y avait une pièce où on pouvait venir se chauffer, le chauffoir. Mais pour le reste, les conditions de travail étaient extrêmement dures. Prenons un exemple avec un très fameux manuscrit, le Book of Kells, qui est gardé à Trinity College, donc l'un des chefs-d'œuvre du 8e siècle. Ces moines ont réalisé ce magnifique ouvrage sur l'île de Iona, un tout petit caillou, donc à l'ouest de l'Écosse. C'est un caillou qui faisait 1,5 km par 5 km. Ils ont travaillé dans des conditions extrêmes. Alors, eux, en été, bénéficiaient de beaucoup plus de jours. Tout simplement parce qu'ils sont en nord et que pendant l'été, les jours sont très longs. Par contre, en hiver, ils sont très courts.
Il fallait réchauffer l'encre.
Disons que c'était extrêmement humide, c'était quand même des conditions difficiles. Mais toujours est-il, ils ont fait l'un des plus beaux manuscrits de cette époque.
Est-ce qu'ils travaillaient avec des loupes?
Alors, il n'y avait pas de loupe au 8e siècle. Il n'y a pas de loupe au 8e siècle.
Rien, pas de...
Alors, il y avait un truc. Comment faire pour voir de très près et avoir une grande finesse? Eh bien, il suffisait de prendre des gens qui étaient myopes.
De prendre des gens qui étaient myopes?
Oui, parce que les gens qui sont myopes voient parfaitement bien de très près.
Oh, très bien, ils savaient déjà ce qu'est la myopie. Chers auditeurs, vous êtes d'accord avec moi que le temps passe trop vite avec notre invité, Eric Montigny, qui est chargé de cours à l'École internationale vitrail du patrimoine à Chartres et qui donne donc des cours d'enluminure et de calligraphie. Si vous voulez redécouvrir cette émission, allez sur radiograndciel.fr, ce site qui vous donnera toutes les informations utiles et nécessaires. Et je vous dis au revoir et merci beaucoup à notre invité d'aujourd'hui, Eric Montigny. À très bientôt.
Merci à vous.